à ceux qui êtes venus de loin, de près et de loin. On pense à ceux qui sont venus pour le mariage de M. Keith hier et Denise Michaud. Des gens qui viennent d'assez loin aussi pour ce mariage. C'était un mariage très édifiant. Un homme qui se remarie, un veuf qui se remarie avec une dame à l'âge d'en haut de 80. Quel âge qu'il y a, M. Keith? 81? 82? 81. Mariage à 82 ans. Hey, 82 ans se marier, c'est quelque chose. Vraiment une bénédiction de Dieu. Vraiment un beau mariage hier soir. J'ai entendu des beaux témoignages de plusieurs pionniers qui sont venus au Québec donner l'Évangile. Et un frère, M. Gosselin, nous présentait les histoires, comment M. Keith est allé chercher. Ça a été vraiment l'instrument que Dieu s'est servi pour aller chercher des familles, dont les Johnston et M. Alexanian et d'autres. C'est vraiment un beau témoignage. Moi, le comble du mariage, le comble, moi, le moment où j'ai été énormément impressionné, j'ai vu c'était quoi être un pionnier au Québec. Quelqu'un de croire tellement à l'importance de donner l'Évangile dans une province aux francophones, tellement convaincu de la nécessité de présenter le beau message de l'Évangile. Vous croirez peut-être pas ça. Mais M. Keith, hier, a mis son habit de noces. Il allait se marier. C'est sa journée de mariage. C'est M. Alexandrien qui l'a marié hier. Il a mis des traités dans sa poche. Il s'en allait se marier. C'est fort pareil. Hein? Hey, là, tu vois le cœur. Hein? Ah, j'ai tellement été... t'es béni, t'es édifié de voir ça. J'ai dit, mon ami, aïe, aïe. Des traités dans sa poche. Il y en avait quelques-uns pour ça la journée de son mariage. Hey, ça, c'est tout un témoignage. Vraiment, gloire à Dieu pour ces hommes-là et ces femmes-là qui sont venus au Québec pour nous présenter l'Évangile. C'est super, ça. Eh bien, ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Le titre de mon message ce matin, c'est « Qu'est-ce que tu chantes quand t'es misérable? » Alors, on va prier, on va demander à Dieu de nous conduire ce matin dans notre temps ensemble, dans la parole de Dieu. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces grandes dames, ces champions, ces héros de la foi, ces femmes et ces hommes qui sont venus au Québec que tu as envoyés parce que tu avais tellement à cœur le Québec. Nous avons tous été touchés par ces gens qui ont fait de grands sacrifices, femmes et hommes, familles, des enfants aussi. Ils ont fait des sacrifices pour venir ici pour communiquer le message de l'Évangile. Nous te sommes complètement redevables, nous te remercions que tu nous as eu à cœur ici, dans ce petit coin du monde appelé le Québec. Ah, merci Seigneur pour ta bonté. Ça fait simplement référence, ça donne simplement un témoignage de ton amour et de ta bonté, ta grâce, ta compassion envers chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, on te prie que tu puisses parler à nos cœurs, changer les choses qui ont besoin de changer, soit dans notre façon de vivre, soit dans notre façon de penser. Des fois, on entretient toutes sortes de pensées erronées, des erreurs, Seigneur, le mensonge. Et tu as besoin de venir corriger, replacer ces convictions, ces pensées que l'on a. Et Seigneur, on pense à ceux qui souffrent ici ce matin, des gens qui vivent toutes sortes de situations, qui souffrent. Nous te prions pour ces gens, que tu puisses parler à leur cœur ce matin, que tu leur donnes une parole de grand réconfort dans ta parole. Parle-nous, dispose nos cœurs, que l'on entende ta voix, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Et qu'est-ce que tu chantes quand tu es misérable? Vraiment misérable, ça va vraiment pas bien. Quand tu vis des crises, quand tu vis des situations tellement douloureuses, des détresses, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu vis? C'est la question qu'un chrétien s'est posée alors qu'il passait à travers un moment très difficile dans sa vie, un moment de détresse. Et il cherchait un cantique qui pouvait un peu parler à son cœur et lui faire du bien, alors qu'il vivait un moment tellement difficile dans sa vie. Il a commencé à chercher dans le livre de Cantiques, là où il habitait, à quelque part aux États-Unis. Et ils n'étaient pas capables de trouver un chant qui adresserait cette souffrance qu'il avait, qui parlerait un peu de l'état de son cœur. Au contraire, même les chants que lui trouvait dans son livre de cantiques, c'était juste des chants comme très joyeux, très upbeat, très positif et tout ça, et c'était super. Mais à ce moment-là, dans sa vie, il cherchait vraiment un chant qui pouvait exprimer la douleur, la souffrance qu'il éprouvait à ce moment-là dans sa vie. Pas incapable de trouver. Qu'est-ce que tu chantes quand tu es misérable? Quoi chanter quand tout autour de toi, quand tu regardes autour de toi et tout autour de toi semble trahir ta foi? Tu regardes autour, tu regardes ce qui se passe et ça menace ta foi. Ça dérange ta foi. Ce que tu vois vraiment bouscule, menace tes convictions et ce que tu crois. Qu'est-ce qui arrive quand tu regardes autour de toi et tout autour de toi semble trahir ta foi? J'ai lu le témoignage récemment d'un pasteur de louange. Vous savez, il y a de plus en plus de pasteurs de louange, des gens qui se consacrent des heures dans la semaine pour préparer un bon temps de louange les dimanches matins et pour conduire le peuple de Dieu dans la louange. Et on sait que Alexandre passe des heures et des heures la semaine avec son équipe à préparer là, des belles louanges pour nous, pour élever nos cœurs en présence de Dieu. Alors, j'ai lu le témoignage d'un pasteur, justement, de louange, qui en était là dans sa vie, qui vivait des épreuves tellement douloureuses, tellement difficiles, que tout autour de lui, lorsqu'il regardait autour de lui, tout menaçait sa foi. C'est son point même qui l'a presque lancé la serviette. Il a même abandonné la foi. Carrément, il a passé à un cheveu d'abandonner sa foi. Je ne sais pas si tu es déjà passé là, si tu as déjà vécu là, cette expérience-là. C'est vraiment pas évident. Voici ce pasteur de louange qui a vécu tellement des moments difficiles, des détresses tellement fortes, qui est passé à un cheveu d'abandonner. Est-ce que tu es là? Peut-être qu'il y a même des gens ce matin qui se trouvent dans notre assemblée. Vous êtes là en ce moment dans votre vie. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que vous allez connaître ces moments-là. Peut-être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sait pas. Mais ce pasteur de louange, j'ai lu son témoignage et dans son témoignage, il exprime comment il a eu de grandes difficultés et il n'a vraiment pas ses proches de tout abandonner. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu es pasteur de louange et tu es payé en quelque sorte pour venir diriger l'assemblée dans la louange? Mais non seulement que ça ne te tente pas, tu as presque perdu ta foi. Qu'est-ce qu'on dit à ce gars-là? Quel conseil on donne à ce gars-là qui doit venir en avant, conduire tout le peuple de Dieu dans l'adoration, alors que lui-même a bien des difficultés, puis il croit quasiment plus? Qu'est-ce que tu conseilles à ce gars-là? Est-ce qu'il va en avant diriger la louange? Il y a des gens qui lui diraient, « Ben non, fais pas l'hypocrite. » Honnêtement, t'as pas l'hypocrite. Va pas conduire tout le peuple de Dieu quand ça va pas bien dans ta foi. Puis même t'as de la misère à croire. T'as un paquet de doutes. Franchement, tu devrais pas. Cède ta place. Appelle quelqu'un d'autre. Appelle Wayne, appelle Alexandre. Ça leur arrive jamais, ces affaires-là. Appelle ces gars-là, là, tu sais. Là, les autres sont taureaux, ça roule. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Ben oui, il raconte tout son témoignage dans la Bible. Ce pasteur de louange-là se trouve dans un des psaumes, puis il raconte son expérience, puis il dit ce qu'il a fait. Heureusement, on a son témoignage personnel. Il ouvre son cœur, puis il raconte ce qui s'est passé. Son nom, c'est Asaph. Lévite, c'est ça qu'il faisait, les gars. Lévite, c'était des conducteurs de louange. C'était des pasteurs de louange. Ils étaient consacrés à temps plein pour diriger tout le peuple dans la louange. Il a même été embauché par David pour conduire tout le peuple de Dieu dans l'adoration. Il était vraiment au summum de l'adoration en Israël, sa charge, sa responsabilité, sa tâche, sa mission, son mandat était de conduire tout le peuple de Dieu dans l'adoration. Et voilà qu'il passe à travers une épreuve très difficile. Et il raconte son expérience dans le psaume 73. Et j'aimerais vous inviter à venir tourner avec moi. Et on va lire juste les deux premiers versets. Je sais que vous avez hâte de voir la solution quand ça vous arrive, là, mais lisez pas trop vite. Attendez-moi, là. On va juste se concentrer sur les deux premiers versets, d'accord? Attendez. Je sais que ça vous brûle. Mais on va juste lire les deux premiers versets, d'accord? Psaume 73, verset 1 et verset 2. Alors, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous avez eu l'occasion d'amener votre Bible avec vous. Sinon, oh, je suis certain qu'on va en trouver, tiens, il y en a un paquet en arrière, là. Alors, vous avez juste à lever la main, là, puis les placer en arrière, vous se feront un plaisir d'aller vous porter une Bible. Alors, le psaume 73, et on va lire juste le verset 1 et verset 2 pour le moment, d'accord? Alors, vous êtes là? Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, d'accord? Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Voici l'image, il est sur le bord d'une falaise, puis ça va tellement mal dans sa vie qu'il est sur le bord de tout abandonner, de se laisser aller. D'accord? Il est sur le bord de tomber. Sa foi est sur le bord de faillir, de tomber, de lâcher prise. Ça va vraiment pas bien. Il dit, « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? Comment un homme qui est dans l'œuvre peut-il en arriver à presque abandonner ou lâcher prise, lâcher sa foi? Est-ce que ça nous arrive, ça, des fois? De nous impliquer, même à servir Dieu, à nous impliquer soit au TEE, à l'école du dimanche, à nous investir, passer des heures et des heures, on se mouille, on s'implique dans des comités, dans des équipes, on travaille, on fait l'œuvre de Dieu, et là, il nous arrive quelque chose, et on arrive au point où on est tellement découragé qu'on est sur le bord, que notre pied là est sur le bord de glisser, puis de lâcher, et tomber, tout abandonné. Est-ce que ça peut nous arriver, ça? Est-ce qu'il y a des expériences dans la vie qui peuvent nous emmener jusque-là? Asaph explique ce qui l'a emmené là. Son témoignage révèle, en fait, qu'il y a deux contrariétés qui l'ont vraiment troublé. Deux problèmes ont menacé sa foi, ont troublé sa foi au point de presque tout laisser tomber. Premier problème. Et ça, c'est deux réalités qui peuvent troubler notre foi. Premier problème, verset 3, car, alors je suis presque tombé, car, il donne la raison, je portais envie aux insensés. J'étais jaloux, littéralement dans l'original, c'est la convoitise, mais j'étais même jaloux des insensés en voyant le bonheur des méchants. Moi, je regarde autour de moi, là, il y a des gens qui veulent absolument rien savoir de Dieu. Rien. Aucun intérêt. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Et pourtant, ils sont bénis. Hey, ça va-tu bien leur affaire? Je ne veux pas dire qu'il est méchant. Il est peut-être très gentil, même il a fait des gros dons, là. Mais je pense à Bill Gates pour un instant, qui n'a aucun intérêt pour Dieu. Il a même dit franchement, il dit, moi, aller à l'église dimanche matin, il y a bien d'autres choses à faire plus utiles que d'aller à l'église le dimanche matin. Un agnostique qui veut dire, ah, prouve-moi que ça existe. T'sais. Ça te prend des preuves scientifiques pour prouver que Dieu existe. Sans ça, je ne veux rien savoir, je ne crois pas. Bill Gates fait des milliards. Aucun intérêt pour Dieu. Warren Buffett, un des très hommes, un des plus riches dans le monde. Il y a à peine 3 mois passés, on a évalué sa fortune. Elle était estimée à 47 milliards. La crise économique a été très dure pour lui. C'était 60 quelques milliards. Il a rendu juste à 47 milliards. Son assistant a dit, « Oh, Warren Buffett, agnostique. » Ça prend des preuves pour prouver que Dieu existe dans son cas. Crois pas, il suffit. Maintenant, ils sont gentils, ils ont fait des gros dons, milliards, puis ça, vraiment des beaux dons, puis ça, aux démunis, puis ça, c'est super. Mais ils n'ont vraiment aucun intérêt pour Dieu. Ces gens-là ne sont pas reconnus pour être des méchants, je ne les connais pas personnellement, mais que penser à d'autres personnes qui sont même agressifs? Ils blasphèment contre Dieu. Ils vont sacrer, blasphémer contre Dieu. Ils ont de la colère, pointe du doigt, comme ça, le point même au ciel, ça maudit Dieu, ça veut rien savoir de Dieu, et tu regardes leur vie, ça va super bien. Comment expliquer ça? C'est ça qui trouble ce pasteur de louanges-là. Ça le dérange. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui sont méchants même, qui vont blasphémer, puis tu regardes leur vie, ils n'ont aucun problème. Ils ont la Mercedes à la porte, sont en santé, ça va tellement bien. Puis Asaph est assez honnête pour dire, honnêtement, je suis jaloux. Pasteur de louange qui parle comme ça. Hein? Je suis jaloux. Honnêtement, il ouvre son cœur et il dit, ça me trouble. Ça me trouble, dit Asaph. Comment expliquer le succès de personnes qui n'ont aucun intérêt pour Dieu et ne veulent rien savoir de lui? Tu regardes leur vie, ils mènent des vies tranquilles, des belles familles, des belles maisons, grosses cabanes, chalets sur le bord du lac McGregor. Oh mon Dieu! Aucun intérêt. Tu les regardes dimanche matin, ils sont en bateau, puis ils se promènent. Ah, merveilleux. Ça le trouble. Psaume 73, verset 3 dit, « Je portais envie aux insensés, aux orgueilleux, aux hautains, littéralement dans l'original. » C'est des personnes qui se pensent au-dessus de leurs affaires, qui te regardent de haut, puis franchement, toi, tu vas à l'église dimanche matin, qui est dans la tête comme ça, les hautains, dit l'original. Et là, Asaph va les décrire. Il prend le temps de décrire, il donne 5 caractéristiques de ces personnes-là. Premièrement, il dit, ils sont en santé, puis sont riches. Verset 3 et verset 4. Il dit, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les trouble jusqu'à la mort. La vie est belle. Leur corps est chargé d'embonpoint. Manque de rien, ces gens-là. Là. Deuxièmement, il dit, ils n'ont aucune inquiétude, aucun problème. Verset 5, il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne connaissent même pas ça, la souffrance. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Troisièmement, il dit, sont orgueilleux et cruels. Verset 6, il dit, aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Quatrièmement, il dit, ils ont tout ce qu'ils veulent. Verset 7, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Regardez bien littéralement ce que ça dit. Voici la traduction de Darby qui arrive plus proche de l'original. Voici ce qu'il dit. Ça va nous aider un peu plus à comprendre. Les yeux leur sortent de graisse. Ils sont tellement bénis, riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ah! Ils dépassent même les imaginations de leur cœur. Et ça, c'est de l'abondance. C'est quand tu rentres dans un magasin, Costco, tu rentres là-dedans, il y a tellement de choses, puis tu regardes tout ça, j'ai tout ça. Tu cherches des choses à acheter, tellement que tu es riche. C'est ça l'idée ici, là. Ils dépassent les imaginations de leur cœur. C'est incroyable, faut-tu être riche? Ils ont tout ce qu'ils veulent. Même plus que ce qu'ils veulent. Cinquièmement, ils sont arrogants envers Dieu et son peuple, verset 8 à 12. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau. Alors les gens, hein, ça suit ces gens-là. Là. Ils avalent tout ce qu'ils disent. C'est ça l'image. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Maintenant, il y a un deuxième problème qui l'achale bien gros. Deuxième contrariété, la souffrance. Pas n'importe quelle souffrance, qu'est-ce qui l'achale vraiment? Et c'est une grande question, ça. C'est la souffrance des hommes et des femmes de Dieu. Comprends-tu, là? On ne parle pas juste du désastre dans le monde. Déjà là, on peut se poser des questions, il y a des gens qui se posent des questions là-dessus. Comment ça se fait que Dieu a permis un tel désastre? Là, on ne parle pas de ça, on parle de quelque chose d'encore plus profond. Le désastre chez les hommes et les femmes pieux, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Comment ça se fait que autres, comment ça se fait que Dieu permet ces choses-là, que des hommes et des femmes de Dieu qui consacrent leur vie, qui font des sacrifices à plaire à Dieu, comment ça se fait qu'eux autres y souffrent? Alors, non seulement que Asaph est troublé par le succès, la réussite et le bonheur des méchants qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais en plus, une autre question qui est dans son cœur, qui l'achète bien gros, qui l'a presque emmené à abandonner sa foi, c'est la souffrance des hommes et des femmes pieux. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Voilà ce qui trouble Asaph. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. Il ne comprend pas sa souffrance. Il parle de la souffrance ici. Verset 13. Il dit, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que c'est pour rien tous les efforts que j'ai faits à me sanctifier, à m'améliorer? Je cherche à m'améliorer, devenir de mieux en mieux. Je fais bien attention, je lutte, les combats, j'ai des tentations, je lutte. Je me donne, je me bats pour ma foi, pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est en vain? Ça vaut rien, ça? Est-ce que j'ai fait ça pour rien? Ça donne quoi, ça? » J'ai entendu tellement de chrétiens dire ça. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Regarde ma vie, bon sang. J'ai fait le bien, j'ai pas arrêté de faire le bien. Regarde ma vie. Ça donne quoi? Est-ce que c'est en vain? C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je souffre. Le gars, il souffre. Et ça a vraiment troublé sa foi. Ça l'a dérangé profondément. Et regardez bien au verset 16. Il arrive au verset 16 et voici ce qu'il dit. « Quand j'ai réfléchi là-dessus, sur ces deux grands problèmes, que les méchants sont heureux et réussissent, et que nous, les hommes et les femmes de Dieu, on souffre, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Vois-tu? C'est là qu'il est, là. Ça, là, c'est une grande difficulté pour moi. Il est si troublé qu'il se sent sur le point de tomber d'une falaise. C'est ce qu'il dit au verset 2, « Mon pied allait fléchir. » Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? C'est ça qui se pose la question. Tellement de sacrifices. Parce qu'on fait des sacrifices, n'est-ce pas, quand tu es un enfant de Dieu? Paquet de sacrifices. Mon ami, juste, même ton horaire change quand tu deviens chrétien. Tu te donnes à l'église, tu veux t'investir, puis tu fais toutes sortes de choses. Je parlais à un frère cette semaine qui me racontait, il y a une job à temps plein ailleurs. Puis en plus, il est un ancien dans une église. Puis il me racontait que, il dit, là mon Normand, il dit, ma job qui est un temps plein, il dit, là je commence ma deuxième job le soir quand j'arrive à la maison. Puis il passe des heures et des heures à s'investir à organiser, planifier, même prêcher dans son église. Il passe des heures, toutes ces heures-là qu'on va mettre. Est-ce que ça vaut la peine? Asaph se dit, j'ai tellement fait de sacrifices. Pourtant, je regarde ma vie, j'ai tellement de problèmes. Ça marche leurs affaires quand je regarde autour de moi. Qu'est-ce qui arrive quand tout autour de toi menace ta foi? Il y a quelque chose qui va se passer tout d'un coup dans l'attitude d'Asaph, que son attitude va changer du tout au tout. Complètement changer. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, verset 16. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Verset 17. « Jusqu'à... » Ça n'arrête pas là, d'accord? « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Qu'est-ce qu'Asaph a fait? Il est allé diriger la louange. Maintenant, c'est très étrange. Parce que bien des gens auraient dit, ben non, Asaph, va pas là. Voyons, va pas diriger le peuple dans la louange quand toi-même, ça te tente pas pantoute. Voyons, fais pas ton hypocrite. Ben, c'est le contraire. Asaph entre dans la maison de Dieu, puis il va diriger la louange. Ça, c'est fort. Il dirige les gens à adorer Dieu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est très étrange, ce qu'il faut savoir, c'est que le psaume 72, Asaph était non seulement directeur de louange, mais lui, composait des chants, composait la musique, composait les chants, tout ça. Le psaume 72 est l'un de ses chants qu'il a composé. Psaume 72 est un cantique. C'est devenu un cantique qui se chantait dans le temple avec les enfants de Dieu. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que quand tu regardes le cantique, il y a 28 versets, du verset 2 au verset 16, c'est juste négatif. Donc, en d'autres mots, on peut dire que 55% du chant, c'est négatif. C'est à peu près comme si vous veniez ici dimanche matin, on mettait une diapo en arrière, et Alex lui faisait chanter des chants comme « Quand je regarde les voisins, eux autres, ils réussissent. Ah, je suis de bord, je suis sur le bord de tout abandonner, ça n'a pas de bon sens ce que je fais. » Ça serait plus beau, hein? Tu l'as dit avant ma femme. Je suis même surpris que ma femme n'ait rien dit. Oh boy. C'est très difficile de chanter à côté de ma femme, vous savez ça? Non, c'est très difficile. Je chante, moi là, puis je chante, puis là j'entends cette grande voix à côté de moi, tu sais. Je chante, puis de temps en temps, ma femme va faire ça de même. Elle me regarde juste pour me donner un petit indice. Normalement, tu n'es pas sur la note. Très difficile. Oui, c'est ça. Toi, est prêche, moi, je vais chanter, c'est ça. Aïe, 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 c'est terrible. Oh, merci, merci, frère, merci, merci. Hé, hey, non, mais pense-y. Tu parles d'un cantique. 55% du cantique, c'est négatif. Ah, oh, la vie est difficile. OK, non, on va arrêter. Pense-y, mais ça n'a pas de bon sens. Chanter des paroles comme ça, qu'est-ce que tu chantes quand tu es misérable? Ben, regarde le genre de chant qu'Asaph a chanté. Ça, j'ai passé proche de tout laisser tomber. J'ai le goût d'abandonner ma foi. Eh non, mais c'est incroyable. Mais quand tu y penses, quand tu t'arrêtes à ça, là, comment comprendre ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quand tu y penses, ce chant soulève certaines des questions les plus pénétrantes qu'un chrétien en détresse va se poser. Ça, c'est les vraies questions. C'est les vraies choses. Tu comprends? Ce que ce chant est en train de dire au peuple de Dieu, à toi et à moi, c'est que tu peux venir dans la maison de Dieu avec tous tes déchirements et tous tes questionnements, ces questions qui te troublent, tu peux venir ici. Et Dieu a une parole pour toi. Tu peux être honnête et venir ici, même si ça ne te tente pas de venir, c'est à la bonne place. C'est là que tu dois venir, exactement à la bonne place. Dieu va entendre tes cris. On peut en parler librement. On ne jugera pas si tu te sens comme ça. Asaph est le conducteur de louange. Il est au summum de l'adoration du peuple de Dieu. Et pourtant, lui-même vivait ces choses-là. Et qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire, c'est correct. Tu peux venir, on va en parler à la lumière de ce que Dieu a révélé de lui-même dans la parole de Dieu. Non, mais c'est très fort ce qui se passe ici. On ne le réalise peut-être pas. Mais c'est très fort. Lui ne met pas le masque. Il ne met pas de masque évangélique, vrai? Au contraire, il en a même fait un cantique. Et tout le monde connaît son état d'âme. Asaph pose des questions difficiles. il est troublé, profondément troublé par des questions difficiles. Et même, même au milieu du psaume, là, jusqu'au milieu, il avoue ne pas avoir les réponses. Là. Mais il vient quand même dans la présence du Seigneur et élève son cœur vers Dieu. La question d'Asaph, au fond, c'est sur la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu, que Dieu contrôle tout. Et sachant que Dieu contrôle tout, qu'il est souverain, il dirige ici, c'est sa création, c'est lui qui est souverain, il dirige tout. Et on regarde les méchants réussir, qui blasphèment, et moi je souffre. La question qu'il est en train de se poser derrière tout ça, c'est « Es-tu bon, Seigneur? Es-tu réellement bon? » Quand on regarde autour, on voit ce qui se passe, on voit ma souffrance, je souffre terriblement. Chaque jour, ça va pas bien, je regarde le monde qui veut rien savoir de toi, et eux autres vont bien. La question au bout du compte, c'est « Est-ce que tu es bon? » Es-tu vraiment bon, Seigneur? C'est ça la question qu'il se pose. Et de toutes les questions auxquelles on pourrait se poser, s'il y en a une que le diable va se servir très souvent, c'est est-ce que Dieu est vraiment bon pour permettre ça dans ta vie? N'est-ce pas? Si Dieu était vraiment bon, est-ce qu'il permettrait ces choses-là dans ta vie? Regarde tout ce que tu as fait pour lui. Regarde comment tu souffres aujourd'hui. Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce que c'est en vain ce que tu as fait? C'est la question, hein? Pourquoi Dieu a-t-il permis telle chose dans ta vie, s'il t'aime, s'il est bon? Le gouvernement de Dieu dans ce monde est rempli de mystères simplement parce qu'il a décidé dans sa toute sagesse de ne pas nous révéler les pourquoi de ses décisions. Il ne nous a pas révélé les secrets de ces mystères. Il a choisi simplement de nous révéler, entre autres, mais dans ce psaume qui ressort, il nous révèle qu'il est bon. Mais le tentateur va chercher à nous inciter à remettre en question ce que Dieu nous a révélé de lui-même. Par exemple, en nous incitant à essayer de régler des questions qui ne se règlent pas, des questions insolubles dans notre pensée. Le diable nous pousse à essayer de résoudre des questions, des secrets profonds et mystérieux qui appartiennent à Dieu et que Dieu a choisi de garder pour lui-même. Habacuc avait les mêmes problèmes. Le premier chapitre de Habacuc, c'est juste pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Trois pourquoi? 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 Et Dieu lui répond, « Habacuc, je ne peux pas te répondre. Tu n'as pas assez de foi pour croire aux explications que je te donnerai. Mais il va te faire une promesse. » Et Dieu lui donne une promesse. Ici, Asaph est troublé. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il ne donne pas d'explication à ce qui se passe. Et il n'ouvre pas le rideau pour lui expliquer les mystères secrets profonds qu'il a gardés pour lui-même. Dieu, non. Qu'est-ce que lui dit? Il dit, je suis bon. C'est comme ça. Comment peux-tu être bon quand tu laisses les méchants tranquilles, ils sont bénis, et nous, qui marchons avec toi, tu nous laisses souffrir? C'est ça la question. Ce psaume, ce magnifique psaume est l'histoire d'une recherche qui est difficile, éprouvante, d'un croyant, d'un adorateur en Israël, que Dieu a récompensé au-delà de ses attentes. Si bien qu'à la fin de son expérience, son cœur change du tout au tout, il va tirer la conclusion qu'il va donner au premier verset. Regardez le premier verset. Il dit quoi? Il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Ça, c'est sa réponse. D'accord? C'est sa réponse. Voici comment le psaume est construit. Il y a trois sections au psaume. La réponse à sa question, « Dieu est-il bon? » Il répond au verset 1, « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Pour ceux qui marchent avec lui. Dans le fond, on pourrait le résumer en d'autres mots. « Oui, Dieu est bon pour ceux qui le suivent. » C'est une autre façon de le dire. Alors, il donne la réponse au verset 1. Oui, Dieu est bon. ceux qui le suivent. Verset 2, le problème surgit quand on pense à la bonté de Dieu. Alors là, il donne, il exprime, il étale le problème, deux problèmes. Et il va entamer après ça, ensuite, au verset 17 à 23, la solution au problème soulevé par la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Asaph, qu'est-ce qui fait sortir Asaph de ses doutes et croire que Dieu est bon pour ceux qui le suivent? Quelle a été la solution pour le sortir de ses doutes et de cette place-là? Premièrement, l'adoration. On change notre façon de voir la bonté de Dieu alors que nous sommes en train d'adorer Dieu. Il y a quelque chose qui se passe là. Le Saint-Esprit se met à l'œuvre, il opère, il exerce un ministère auprès de notre cœur lorsqu'on adore Dieu. Il chante sa misère, il ouvre son cœur et il chante Dieu. Il chante sur lui, il chante les œuvres de Dieu, sa grandeur, ses œuvres, son caractère, sa patience. Et c'est dans l'adoration, c'est lorsque notre cœur s'élève dans la présence de Dieu, que l'on réalise de plus en plus la bonté de Dieu. Maintenant, il y a une raison pour ça, c'est que le Saint-Esprit, lorsque tu adores Dieu, le Saint-Esprit prend le projecteur et le tourne vers Jésus-Christ. Il élève Christ dans ton cœur. C'est le rôle du Saint-Esprit que d'élever, glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te pointe vers Christ. Et quand tu regardes Jésus-Christ, tout d'un coup, ton cœur commence à changer. Parce qu'en fait, le summum de la bonté de Dieu s'est exprimé à la croix, vrai? Comment Asaph arrive-t-il à la conclusion que Dieu est bon pour ceux qui le suivent, commence à adorer? Deuxièmement, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'aie pénétré la maison de Dieu, jusqu'à ce que je sois entré dans la maison de Dieu. Ça commence là. Mais deuxièmement, il exprime sa joie et dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, verset 28, c'est mon bien m'approcher de Dieu. Et c'est ça, c'est tu t'approches de Dieu. Deuxièmement, il réalise qu'il doit changer sa façon de mesurer la bonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 17, il dit, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort des méchants. » Voici ce qui se passe. Asaph regarde autour de lui, il regarde ses circonstances, il regarde quoi? La richesse des autres. En d'autres mots, la façon, l'outil par lequel il mesurait la bonté de Dieu, c'est quoi? C'est par le matérialisme et par les circonstances. D'accord? Bien des gens autour de nous, c'est comme ça qu'on mesure la bonté de Dieu. Soyons honnêtes. Mais ça prend un bon outil pour mesurer. Et Asaph ne prenait pas le bon outil pour mesurer la bonté de Dieu. Par exemple, tiens, laissez-moi vous montrer. Vous avez des outils hein, qui mesurent, qui prennent des mesures. Vous en avez? Ben, il y a un galon à mesurer. On mesure avec un galon à mesurer. Regardez, je vais vous en montrer un. Connaissez-vous ça ici? Ah, ça, c'est vraiment super. J'ai découvert ça quand j'étais dans mon ancienne église. C'est vraiment bien. Ça. Connaissez-vous ça? Hein? Oui? Ben, regarde ça, c'est bon. Pas pire, hein? Une roulette. Ici, il y a la mesure. Ah, c'est tellement bien. Tu veux mesurer des centaines de pieds, aucun problème. Tu le mets à zéro. Tu mets ça à terre. Et tu t'en vas, tu marches. Tu veux juste marcher. Tu prends ton café, si tu veux. Tu continues, tu marches. Ah, mais tiens, je veux mesurer, tiens, jusqu'au piano. Tu prends ça, tu regardes ça, tu dis, ah, 19 pieds. Incroyable, hein? C'est utile, hein? C'est super. On met à zéro. Maintenant, admettons que je voulais mesurer, tiens, combien il y a d'eau dans le verre? Tiens, on va prendre l'outil pour mesurer l'eau dans le verre. Attends un peu, juste une seconde. On va prendre ce verre d'eau-là, puis on va prendre combien est-ce qu'il y a d'once là-dedans. On va essayer de mesurer ça. Hein? On essaye? Hein, Jean, veux-tu venir m'aider? Là? Non. Combien? Non, ça ne marche pas, celle-là. Ça ne marche pas. C'est quoi le problème? C'est juste ça, hein? Qu'est-ce que ça prend comme outil? Ça prend quoi? ça prend une tasse à mesurer. Ben oui. Et tout de suite, tu prends le bon outil, tu vas savoir exactement comment est-ce qu'il y a de l'eau dedans. Asaph a dû apprendre qu'il se servait du mauvais outil pour mesurer la bonté de Dieu. Lui, sa mesure, son critère pour évaluer, pour voir la grandeur de la bonté de Dieu, c'était le matérialisme et les circonstances. D'accord? C'est pas le bon outil. C'est pas comme ça qu'on mesure la bonté de Dieu. Vois-tu, ce qui nous aide à nous sortir de cette place-là, là, où on est sur le bord de lâcher, un, commence à adorer le Seigneur, et deux, change ton galon à mesurer. Regarde pas ce qui se passe dans ta vie, regarde pas ton compte de banque, c'est pas ça qui témoigne de la bonté de Dieu. C'est tellement une leçon importante pour nous, que le Saint-Esprit ce matin nous aide à adopter cette unité de mesure, à adopter cet outil pour mesurer la bonté de Dieu, c'est pas le matérialisme, c'est pas les circonstances. Dieu nous le dit, il révèle sa bonté. Dieu ne donne pas l'explication à ça, il fait juste dire, je suis bon. Regarde ce que j'ai fait. Regarde l'histoire, comment j'ai été fidèle, j'ai montré ma bonté, j'ai montré ma bonté plus d'une fois. Et ce que Asaph va faire, il regarde les méchants, puis il dit, oh, attends un peu, là. C'est vrai qu'ils ont des grosses maisons, là, sur le bord du lac McGregor. C'est vrai, là. Je ne peux pas dire que tous ceux qui sont sur le bord du lac sont méchants, là. Non, pas ça, je suis en train de dire, mais mettons, qu'il y a une grosse, grosse cabane, puis la personne qui reste là est méchante, puis tout ça. Ce qu'Asaph est en train de réaliser, oh, attends un peu, c'est temporaire. C'est temporaire, cette affaire-là. Et lorsqu'Asaph a commencé à réaliser comment le matérialisme et les circonstances même si elles nous donnent beaucoup de souffrance, c'est temporaire tout ça. Une chose qui n'est pas temporaire, c'est la bonté de Dieu. Et un jour, on va sortir de tout ça, là. Un jour, on va entrer dans sa présence pour l'éternité et on va jouir d'une richesse incroyable auprès de Dieu et on ne sera plus jamais malade, on n'aura plus jamais de souffrance. Et ça, c'est éternel. Et ça, ça témoigne de la continuité de la bonté de Dieu. L'erreur, c'est d'avoir une mauvaise mesure. Et c'est ce qu'Asaph est en train de réaliser lorsqu'il dit, « Hey, tout ça, c'est temporaire. » J'ai pris garde, verset 17. « J'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber. Moi, j'étais sur le bord de tomber, mais je ne suis pas tombé. » Le verset 23 dit, « Tu m'as saisi la main droite, puis tu m'as enlevé de là. Moi, je suis pas tombé, mais les méchants, un jour, tu vas, toi, les faire tomber. » C'est pas qu'on se réjouit du sort final des méchants, mais il faut reculer puis regarder que tout ça, c'est temporaire. Ne nous laissons pas impressionner par les choses que l'on voit, par le présent. Tu les fais tomber, Seigneur. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Verset 21. Il se sent même gêné, stupide d'avoir pensé ça, il dit. Lorsque mon cœur s'aigrissait, il y avait même l'agressivité, lorsque mon cœur s'aigrissait, dès que je me sentais percé dans les entrailles, ça c'est les émotions, j'étais stupide au fond et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. C'était ma façon de raisonner, ça n'avait pas de bon sens. La raison, c'est qu'Asaph réalise qu'à la fin, les méchants ne connaîtront jamais la bénédiction d'être proche de Dieu et de jouir de sa bonté. Jamais! Mais lui, oui. C'est ce qui explique la raison pour laquelle Asaph arrive au verset 24, et il va dire, « Toi, tu vas me conduire par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. ma chair et mon cœur peuvent se consumer, quoi qu'il m'arrive. Dieu, et voilà ce qui se rappelle, sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Et il peut dire, à la lumière de ça, il peut dire, oui, Dieu est bon pour ceux qui le suivent. Prions, Seigneur, que Dieu nous aide à toujours nous rappeler que Dieu est bon, quoi qu'il nous arrive. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous devons avouer très humblement que nous avons probablement tous passé par là. Nous nous sommes tous questionnés sur les pourquoi de la souffrance, pourquoi certaines personnes qui n'ont aucun intérêt pour toi, qui même vont te blasphémer, continuent à aller bien. Pourquoi sont-ils bénis? Mais Seigneur, aide-nous par ton esprit de nous rappeler que tout ça c'est temporaire. Que même les bénédictions présentes, même des méchants, vont cesser un jour. Et ça, c'est tout temporaire, Seigneur. Ce dont nous voulons nous rappeler, c'est que tu es bon et nous allons entrer dans cette bonté éternelle un jour, dans ta gloire. Et nous aurons oublié toutes tes souffrances, Seigneur. Aide-nous. Parce qu'il y a peut-être des gens ce matin qui sont là, comme Asaph était, où leur cœur est en train de se poser de sérieuses questions, des questions profondes. Aide-nous à nous rappeler, aide-leur et aide-nous à nous rappeler dans ces moments-là, oui, tu es bon pour ceux qui le suivent. Amen.